au centre. C'est mon bonsoir, mon bonjour de partout où vous m'écoutiez. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end, et surtout aux musulmans qui ont été secoués par la célébration de la Tabaski en famille. J'espère que vous avez été vraiment dans la joie. Je vous envoie mes sincères vœux et je salue tout le monde et je remercie déjà tous ceux-là qui me suivent de partout le monde entier. Merci encore. Votre fidélité m'honore. Alors, le troisième épisode de ce jour, c'est la deuxième partie en fait de l'ouvrage de ces deux bâtiments sous le Hajj. Comme on avait promis la dernière fois, j'ai parlé seulement du cœur. J'ai fait une peinture de la société africaine avant l'arrivée des colons. Aujourd'hui, maintenant, on parlera de la société, l'état de l'Afrique et l'influence de la colonisation sur la société africaine. Et particulièrement, on parlera de la France, l'AOF et l'AEF. Et le cas précis sera le cas du Mali. Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand les colons sont arrivés sur les terres maliennes? Ils font instaurer des institutions d'abord, telles que l'école, l'église, l'ingérence dans les affaires administratives du Mali et partout en Afrique et d'ailleurs. À travers l'école, le colon nous a appris certaines valeurs qui allait bien sûr à l'encontre de la vieille école solaire. L'école moderne nous a appris par exemple que cette situation que nous faisons subir à la femme nous mettra éternellement en état d'infériorité à l'égard des autres peuples. Qu'il est souhaitable de flanquer ces vieilles coutumes en l'air. Libérer la femme si nous tenons vraiment à vivre. L'école nous a appris encore que ces pratiques coutumières font nos faiblesses. Si nous voulons vivre pleinement, il nous faut devenir un peu plus fort. C'est la femme qui fait démarrer la société, c'est elle qui la fait progresser, c'est elle le principal agent d'émancipation. Débarrassons-nous donc de toutes ces vieilleries. Soyons un peu plus forts. La force résout tout d'après l'école moderne. Et t'insérera. En tout cas. Alors, c'est un passage très clair, non? Vous savez bien que la femme occupe une place de choix dans la société occidentale. Pour ceux qui ne savent pas le schéma de la société en termes des droits de l'homme en Europe particulièrement, parce que j'y suis, c'est d'abord l'enfant, on privilégie d'abord l'enfant, après c'est la maman et enfin c'est le papa, donc le papa occupe. C'est l'inverse en fait de la société africaine d'avant la colonisation. Alors, autre chose, de nouvelles villes, quand les Blancs sont arrivés en fait au Mali, qu'est-ce qu'on a pu apercevoir? Des nouvelles villes ont été appelées quartiers européens au vu le jour. Alors, comme caractéristique de ces villes, on avait les rues très larges, goudronnées, très propres, toujours nettoyées, contrairement à celles des colonies où après la pluie, les rues du quartier indigène devenaient comme des mares, des boues, un peu comme on dit chez nous des zélobies. Donc c'est un peu ça. C'était comme ça. C'est qu'on pouvait voir concrètement. Il y avait déjà une séparation au niveau administratif, un quartier administratif propre, réservé aux Blancs, et un quartier des indigènes qui était très sale, moins entretenu. Et l'ironie du sort, c'était que le même administrateur qui était responsable de tout cela. On avait même un administrateur commun qui dirigeait le quartier des Blancs, une partie européenne, et qui dirigeait encore le quartier des indigènes. Voilà un peu ça. Alors, la troisième chose qu'on peut noter, c'est que les colons ont encouragé les femmes à aller aussi à l'école de s'instruire. C'est le cas de Kani, la fille de Benfra, qui sera par la suite, elle sera liée et écrite, et partant même, elle apprendra ses droits en tant que femme. Ah oui. Alors, le blanc a pris l'école, a appris la femme que sa place n'était pas au foyer comme nous, nos pères croyaient que cela était. Donc, quand le blanc arrive, il dit à la femme, non, tu as la même chance que ton frère, puisque l'école pour la plupart du temps c'était réservé au mâle. Donc, quand le blanc arrive, il dit non, ta place en tant que femme, ce n'est pas au foyer. Tu peux t'instruire aussi, tu peux voyager en Europe, tu peux faire une carrière, tu peux réussir aussi comme les hommes. C'est un peu ça que le blanc est venu avec comme une nouvelle ère. Alors, le quatrième point, le blanc, quand ils sont arrivés, les blancs, ils ont obligé à tous les Africains, les chefs indigènes surtout, à se découvrir. À se découvrir pour le saluer. Or, il était de coutume que quand un vieux ne se découvre jamais, un autre, c'était les jeunes, c'était aux jeunes de saluer les vieux et non l'inverse. Vous voyez ça? Imaginez nos griots, tous nos pères, grands-pères. Le blanc est arrivé, quand il voulait leur saluer, il a demandé d'enlever peut-être leur chapeau, d'enlever un, je ne sais pas, se découvrir vraiment. C'était vraiment humiliant pour ces blancs. Eux qui n'ont jamais fait cela de leur vie. Et en plus, il a commencé à inverser les rôles, parce que là maintenant, c'est le blanc qui espérait que nos ancêtres, nos pères, le chef du village vienne vers eux, leur saluer. Oh, c'était eux les étrangers. Normalement, qu'est-ce qui se provoque dans une société qui se respecte? Quand un étranger vient, c'est lui qui vient s'annoncer auprès du chef du village. Il vient s'annoncer auprès du dirigeant de la place. Ce n'est pas le dirigeant qui va l'accueillir. Vous voyez déjà ces gens, c'est comment les inversions, comment les rôles ont commencé à s'inverser petit à petit dans la société africaine. Alors, continuons. le cinquième point, bien sûr. Il est noté aussi dans cet ouvrage que le blanc cherchait à tout savoir. Il n'oublie même pas les vaches, le nombre de vaches que vous avez, le nombre d'enfants, votre bétail, si vous avez un fusil ou non. Il cherchait à tout savoir sur nos chefs, tous ces hommes qui avaient ce droit-là, qui avaient été nommés par le village de régner sur nos villages et sur nos territoires. Donc, le blanc, quand il arrive, il cherche à savoir toutes ces informations pour en faire quoi, d'après vous? Moi, je pense que s'il cherche à toutes ces informations, c'est parce qu'exactement, ils étaient venus pour coloniser. Coloniser quelqu'un, colonisation. Coloniser quelqu'un, ça veut dire dominer la personne, assujettir cette personne. Alors, l'information était très capital pour eux, parce que quand tu as l'information, tu peux facilement manipuler quelqu'un comme une télécommande serait comme avec un écran de télé. Plus vous avez l'information sur la personne, plus vous pouvez facilement manipuler la personne. C'est logique, n'est-ce pas? C'est très logique. Alors, c'était ça, le quatrième point. Avançons avec le cinquième. Alors, à l'arrivée du blanc, qu'est-ce qui s'est passé? On a enregistré la première épidémie qui fut une épidémie de méningite cérébro-spinale. Elle avait commencé dans les quartiers du nord et avait petit à petit gagné tous les quartiers de la ville. Cette maladie, disaient les vieux, que les soldats noirs l'avaient ramenée du pays des blancs après la guerre. Alors voici comment l'épidémie, la pandémie, en fait, tous ces trucs qui sont en Afrique maintenant est arrivé. Pendant la guerre, les blancs venaient prendre des ressources humaines en Afrique. Ils prenaient des hommes forts, robustes, ouais. Ils partaient les former comme des soldats. Et puis, quand ils avaient se formé, ils les rajoutaient à leurs armées de guerre. Donc, les Noirs partaient combattre aux côtés des Blancs pour leurs propres intérêts. Alors, quand la guerre s'est achevée, ils sont rentrés. Puis c'était plus à l'époque de l'esclavage, bien sûr, on leur a donné le libre arbitre de rentrer à la maison. Ils sont rentrés, mais ils ne se sont pas rentrés comme ils sont partis. Ils sont rentrés déjà contaminés par les virus de la méningite cérébro-spinale. Donc, l'épidémie ne vient pas de maintenant, c'est depuis longtemps. Et elle ne vient pas d'Afrique, elle vient de. D'ailleurs, suivez mon regard. Alors, c'est quoi le prochain point? On passe au prochain point. Ce roman, bien sûr, est rencontré à travers une histoire d'amour très touchante entre deux jeunes élèves de l'école moderne, Kanye et Sam, qui s'aimaient sincèrement et intensément. Mais le dessein du père de cette première qui désirait ardemment faire épouser sa fille à un riche marchand flamagan va contrecarrer sérieusement. Le père Benfa, qui était le père de Camille, voulait que sa fille épouse l'homme que lui il aurait choisi pour elle. Et la jeune fille aussi, à son tour, était déjà amoureuse de son ami de classe avec qui ils ont commencé l'école du plan ensemble. Donc ça a créé un très grand clash parce que c'était comme le clash de la nouvelle et l'ancienne, en fait, la méthode traditionnelle, la méthode moderne. Le papa, qui est issu de cette tradition, qui est le gardien de cette tradition, savait que dans les traditions, c'est le père qui offre un gendre à sa fille. Maintenant, la fille qui allait à l'école moderne, elle a appris que non, tu as le droit de choisir avec qui tu peux faire ta vie. Alors, c'est ça qui créera encore un très grand dilemme entre ce papa et sa fille et de l'autre côté son fiancé Sam. Ce n'était pas du tout facile, hein? Parce que faire vivre cet amour voudrait dire désobéir au père de Kani dans un contexte où la jeunesse se comportait déjà de manière assez insolente et désinvolte vis-à-vis de leurs aïeux qui fuyaient leur héritage et leur coutume, voulaient à tout prix ressembler aux blancs. Voilà, c'était ça. C'était vraiment un dilemme entre cette fille et son papa qui s'opposait déjà dans son mariage avec son étudiant pour lui donner à un marchand, un homme d'affaires qui était déjà aussi polygame de deux femmes, donc sa fille devait être la troisième femme dans ce foyer-là. L'école moderne, il faut vraiment le souligner, a été tant critiquée par les vieux ça pollue beaucoup les failles parce que les vieux se plaignaient beaucoup de cela, que l'école moderne a entraîné une division, une rupture entre la jeune et la vieille génération, et un questionnement dans les vieilles habitudes, qui sévissent depuis des siècles. Vous voyez, les jeunes désormais refusaient par exemple de boire de l'eau des calebasses sous prétexte qu'elles contiennent des microbes, qu'elles sont sales. Donc on peut boire de l'eau de là et tomber malade. Donc ils ne le faisaient plus. Or c'est ce que leurs ancêtres, les pères de leurs pères le faisaient depuis le commencement des choses. C'est un peu ça. Alors, il faut noter qu'il y a un personnage vraiment emblématique dans cet ouvrage, d'un rôle très, très capital, car il est à la fois comme un médiateur entre la jeunesse et les vieux. Il s'agit de Tiemann, un jeune homme proche encore des anciens, mais qui a connu l'Europe. Alors, il va jouer un rôle notable dans l'intrigue entre le papa de Cani et Cani. Ce mariage forcé qui se préparait, il va jouer vraiment un rôle très, très notable là. Parce que, en parlant de la lettre qui s'adresse au fiancé de Cani, il dit ceci: s'il y a des conflits entre les vieux et nous, jeunes, c'est que nous représentons un peu deux mondes différents. La conciliation est possible. J'aime ça, j'ai vraiment aimé cette phrase. La conciliation est possible. Ouais, c'est vraiment possible. C'est à vous à en prendre l'initiative. Nous avons vécu coupé de notre monde. Je m'appuierai d'ailleurs sur le rôle de cet homme-là pour faire une riche synthèse de cette œuvre en insistant sur le brassage des cultures afro-occidentales. Voilà, il faut reconnaître ceci, ça va de soi, hein. C'est vraiment, on ne peut pas cacher, on ne peut pas se nier cela. Le blanc nous a apporté beaucoup de bien. Ça c'est incontournable. Par exemple, les méthodes artisanales qu'on utilisait jadis ont été remplacées par les méthodes modernes. Ce qui a fait quoi? Ça a accru la productivité, un gain en temps, un gain en, et ça aussi augmenté la productivité, la quantité. À l'époque, par exemple, si on produisait le cas des plantations, on semait peut-être le maïs peut-être sur un hectare par jour, mais avec les machineries et tout ça, le blanc est venu faire, c'était maintenant les cultures sur les hectares, c'est en fait des grandes surfaces et les productions étaient vraiment énormes, c'était des tonnes qu'on produisait, vous voyez un peu. Donc le blanc nous a apporté beaucoup de bien. Les conditions des femmes aussi ont été révolues. Les femmes sont désormais très émergentes. On connaît pas mal de femmes africaines qui sont multimillionnaires en dollars, en multimilliardaires même peut-être, en dollars américains. On connaît des femmes qui sont dans le gouvernement, premier ministre. Nous connaissons des femmes qui sont haut placées en Afrique. Vous voyez, ce sont les cultures qui ont été un peu mises en question par l'arrivée du blanc. Cette chose n'était pas possible avant que le blanc n'y soit là. Et on voit aussi qu'il y a les foyers polygamiques qui sont en voie de disparition, surtout dans les foyers chrétiens. C'est dans les foyers polygamiques que les gens sont peut-être encore de le faire, mais c'est un peu en voie de disparition, surtout que la société change, ce n'est plus comme les femmes étaient forcées à s'appeler certaines choses. Non, maintenant chaque femme a son droit. La femme peut frapper la main à la table, dire non, je ne veux pas ça, non, je veux ça. Ouais, c'est maintenant le dialogue, la collaboration. Ce n'est plus des droits imposés à qui que ce soit. On doit aussi remarquer que dans la société, il n'y a plus des circoncisions des mâles à l'âge d'adolescence. Ça se fait à la naissance. Ce n'est plus cette époque-là où l'homme devait souffrir, devait se faire circoncire à l'âge de son adolescence pour réussir, pour qu'il soit formé, qu'il soit préparé pour affronter la société en tant qu'homme. Donc il n'y a plus cela. On le fait quand il est tout bébé pour adoucir sa douleur. C'est ça. Point d'autre. Il y a pas mal de valeurs morales et culturelles africaines qui sont vraiment en voie de disparition. Il faut noter les bonnes, mais aussi les mauvaises. Les mauvaises, il y en a aussi. Vraiment nombreuses. Maintenant, c'est un peu la nouvelle génération africaine, on trouve rarement des gens qui s'expriment dans un langage de pudeur, qui a encore gardé cet art de s'habiller vraiment comme un Africain avec notre style de jeunes. Ouais, mais maintenant, c'est la plupart des styles communs qu'on voit, c'est sur le modèle occidental. On est bien habillé quand on porte des marques telles que Gucci, Louis Vuitton, Dolce Gabbana et tout ça, je m'en passe. Les jeunes, ensuite, quelque chose de très marrant et de très indignant, c'est que les jeunes se détachent de plus en plus de leurs années. Très peu les jeunes sont encore capables, ont encore cette fierté de parler de leurs années. Même dans les places publiques, ils ne parlent presque plus. C'est la langue du colon qui est la plus brandie entre nous, en famille, entre amis, partout à l'école. C'est la langue du colon qui remporte toujours. Et c'est vraiment marrant parce que c'est pas quelque chose, parler son dialecte, c'est pas quelque chose de négatif. Ce n'était pas quelque chose vraiment, ce n'était pas une valeur qu'il fallait, qu'on devrait vraiment perdre comme ça. C'est vraiment intriguant. Pourquoi chacun de nous doit se battre pour sauvegarder sa culture? Nous devons être capables de pouvoir dire non à ce qui est mal dans nos cultures et dans la culture de l'Occident. Et nous devons faire un tri pour préserver le bon employé dans tous les cas. Il ne s'agit pas évidemment de tout accepter, mais faisons juste un tri dans les coutumes, qu'elles soient africaines ou occidentales. Elles sont les cultures, ce qu'on doit retenir, c'est qu'elles sont faites pour servir les hommes, nullement pour leur asservir. Soyons réalistes, brisons tout ce qui enchaîne l'homme et jeune sa prospérité. Aucune société n'est parfaite déjà, par exemple. C'est ça que les gens doivent comprendre. Aucune société n'est parfaite, ni la société africaine, ni la société occidentale. Prenons le cas de la société occidentale que nous, les Africains, nous combattons tant. Elle est taillée sur quelle forme? La forme hiérarchique de la société africaine, de la société occidentale, c'est d'abord l'enfant. L'enfant est privilégié. Après, c'est l'épouse. Et enfin, c'est le mari. Le mari vient en dernière position, donc au bas de l'échelle. Ouais, c'est très très mauvais. C'est très mauvais. Et il y en a des occidentaux, il y en a parmi qui disent qu'ils sont chrétiens. Mais la Bible ne dit pas cela. La Bible dit d'abord Dieu, ensuite le mari, la femme, et l'enfant vient en dernière position. ils ont inversé catégoriquement les rôles. C'est pourquoi vous voyez ce qui se passe maintenant comme conséquence, la délinquance juvénile. Les enfants occidentaux sont tellement insolents envers les propres parents, envers la société, envers tout le monde. Ils sont des gens très insolents. J'en ai vu pas mal. J'en ai vraiment vu. J'ai même vécu cela. Ce sont les enfants qui savent que si il peut faire n'importe quoi, si son papa lui met la main dessus, il appelle carrément la police. Et ça devient plus grave encore quand il a ses 17 ans. Tu n'as plus rien à lui dire. Il est majeur. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut à sa guise. J'écoutais l'histoire d'une dame encore l'autre jour, ça m'a vraiment intriguée. Elle racontait combien elle a vu son propre fils de 18 ans souffrir d'un problème de santé mentale. Il délirait ce gars. Il était vraiment, donc il perdait vraiment les pédales. Elle a conseillé, elle a fait tous les moyens pour le convaincre de consulter un médecin, de l'accompagner voir un médecin. Mais le gars a refusé, il disait non. Tu vas bien, tu vas bien. Oh, c'était fou. Il prenait des drogues, des lubrifiants, des trucs comme ça. Ça le rendait instable en fait. Il avait vraiment besoin d'aide, mais puisqu'il était déjà majeur, c'est lui qui avait le droit d'aller consulter le médecin. Sa maman ne pouvait que le conseiller sans toutefois l'imposer. Ouais, l'enfant que vous avez mis, vous voyez comment il souffre et vous êtes incapable de venir en aide. Oh, c'est le cas inverse en Afrique. En Afrique, il y a le papa, la maman et les enfants. Mais seulement les enfants aujourd'hui et même les mamans, malgré que les choses ont changé, nous aussi, on veut souvent faire comme les blancs. On veut souvent voir, imiter ce qu'on voit à la télé. Dans les séries, on va de nos jours aussi, on veut faire comme les Kim Kardashian, on veut jouer la vie, on veut mener la vie des gens que eux-mêmes déjà ne sont pas satisfaits du système qu'ils ont construit. Leur système a des failles, ils en souffrent. Pourquoi est-ce qu'on va imiter des gens qui eux-mêmes d'abord ne sont pas satisfaits de leur propre système? Donc je vous laisse. C'était la deuxième partie de mon podcast. Je vous laisse vraiment méditer cela. Mon conseil, comme je vous l'ai dit, il y a un moyen de mettre en équilibre entre ces deux cultures africaines et occidentales. Faisons un tri. Gardons des bonnes cultures. Gardons les cultures qui nous valorisent. Les cultures africaines, parmi elles, il y en a plusieurs qui sont très bien. Très, très bien. Il y a une chance pour nous de les préserver et de regarder encore sur la culture occidentale ce qui est bien. Et aussi on garde cela. On n'est pas obligé de prendre tout, les mauvaises, les bonnes. On fait un tri et on conserve les bonnes valeurs. Ça c'est pour notre bien, c'est pour le bien de la nation, pour le bien de l'image de l'Afrique et c'est pour le bien de nous-mêmes en tant que personnes. Individu. Alors, merci de m'avoir écouté. C'était le troisième épisode de Cyberbomek. J'ai clôturé avec l'œuvre de Sous l'orage de Cédou Boutin. J'espère que vous avez aimé. J'attendrai vos feedbacks. Et d'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite une excellente semaine. Soyez tous dans la paix, dans la joie. Et à bientôt pour le quatrième épisode de Cyberbomek Podcast. Bye. Tchuss. Salut à tous encore. Recevez mon bonsoir, mon bonjour de partout où vous m'écoutiez. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end, et surtout aux musulmans qui ont été secoué par la célébration de la Tabaski en famille. J'espère que vous avez été vraiment dans la joie. Je vous envoie mes sincères vœux et je salue tout le monde et je remercie déjà tous ceux-là qui me suivent de partout le monde entier. Merci encore. Votre fidélité m'honore. Alors, le troisième épisode de ce jour, c'est la deuxième partie en fait de l'ouvrage de Cédric Badian sous le rush. Comme on avait promis la dernière fois, j'ai parlé seulement du cas. J'ai fait une peinture de la société africaine avant l'arrivée des colons. Aujourd'hui, maintenant, on parlera de la société, l'état de l'Afrique, et l'influence de la colonisation sur la société africaine. Et particulièrement, on parlera de la France, l'AOF et l'AEF. Et le cas précis sera le cas du Mali. Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand les colons sont arrivés sur les terres maliennes? Ils font instaurer des institutions d'abord, telles que l'école, l'église, l'ingérence dans les affaires administratives du Mali et partout en Afrique et d'ailleurs. À travers l'école, le colon nous a appris certaines valeurs qui allaient bien sûr à l'encontre de la vieille école solaire. L'école moderne nous a appris par exemple que cette situation que nous faisons subir à la femme nous mettra éternellement en état d'infériorité à l'égard des autres peuples. Qu'il est souhaitable de flanquer ces vieilles coutumes en l'air. Libérer la femme si nous tenons vraiment à vivre. L'école nous a appris encore que ces pratiques coutumières font nos faiblesses. Si nous voulons vivre pleinement, il nous faut devenir un peu plus fort. C'est la femme qui fait démarrer la société, c'est elle qui la fait progresser, c'est elle le principal agent d'émancipation. Débarrassons-nous donc de toutes ces vieilleries, soyons un peu plus fort. La force résout tout d'après l'école moderne et t'insérera. En tout cas, alors c'est un passage très clair, non? Vous savez bien que la femme occupe une place de choix dans la société occidentale. Alors, pour ceux qui ne savent pas le schéma de la société en termes des droits de l'homme en Europe particulièrement, parce que j'y suis, c'est d'abord l'enfant. On privilégie d'abord l'enfant, après c'est la maman. Et enfin, c'est le papa. Donc, le papa occupe. C'est l'inverse, en fait, de la société africaine d'avant la colonisation. Alors, autre chose, de nouvelles villes, quand les Blancs sont arrivés, en fait, au Mali, qu'est-ce qu'on a pu apercevoir? Des nouvelles villes ont été appelées quartiers européens, ont vu le jour. Alors, comme caractéristique de cette ville, on avait les rues très larges, goudronnées, très propres, toujours nettoyées, contrairement à celles des colonies, où après la pluie, les rues du quartier indigène devenaient comme des mares, des boues, un peu comme on dit chez nous des îlobies. Donc c'est un peu ça. C'était comme ça. C'est qu'on pouvait voir concrètement. Il y avait déjà une séparation au niveau administratif, un quartier administratif propre, réservé aux Blancs, et un quartier des indigènes qui était très sale, moins entretenu. Et l'ironie du sort, c'était que le même administrateur qui était responsable de tout cela. On avait même un administrateur commun qui dirigeait le quartier des Blancs, le quartier européen, et qui dirigeait encore le quartier des Indigènes. Voir un peu ça. Alors, la troisième chose qu'on peut noter, c'est que les colons ont encouragé les femmes à aller aussi à l'école, de s'instruire. C'est ainsi, c'est le cas de Cani, la fille de Benfra, qui sera par la suite, elle sera lit et écrit, et partant même, elle apprendra ses droits en tant que femme. Ah oui. Alors, le blanc a appris à l'école, a appris à la femme que sa place n'était pas au foyer comme nous, nos pères croyaient que cela était. Donc, quand le blanc arrive, il dit à la femme, non, tu as la même chance que ton frère, puisque l'école était la plupart du temps c'était réservé au mâle. Donc, quand le blanc arrive, il dit non, ta place en tant que femme, ce n'est pas au foyer. Tu peux t'instruire aussi, tu peux voyager en Europe, tu peux faire une carrière, tu peux réussir aussi comme les hommes. C'est un peu ça que le blanc est venu avec comme une nouvelle ère. Alors, le quatrième point, le blanc, quand ils sont arrivés, les blancs, ils ont obligé à tous les Africains, les chefs indigènes surtout, à se découvrir. À se découvrir pour le saluer. Or, il était de coutume que quand un vieux ne se découvre jamais, un autre, c'était les jeunes, c'était aux jeunes de saluer les vieux et non l'inverse. Vous voyez ça? Imaginez nos griots, tous nos pères, grands-pères. Le blanc est arrivé quand il voulait leur saluer, il a demandé d'enlever peut-être leur chapeau, d'enlever je sais pas, se découvrir vraiment. C'était vraiment humiliant pour ces blancs. Eux qui n'ont jamais fait cela de leur vie. Et en plus, il a commencé à inverser les rôles parce que là maintenant, c'est eux, c'est le blanc qui espérait que les ancêtres, que nos ancêtres, nos pères, le chef du village viennent vers eux, leur saluer. Or, c'était eux les étrangers. Normalement, qu'est-ce qui se provoque dans une société qui se respecte? Quand un étranger vient, c'est lui qui vient s'annoncer auprès du chef du village. Il vient s'annoncer auprès du dirigeant de la place. Ce n'est pas le dirigeant en partie l'accueillir. Vous voyez déjà ces gens, c'est comment les inversions, comment les rôles ont commencé à s'inverser petit à petit dans la société africaine. Alors, continuons. le cinquième point, bien sûr. Hein. Il est noté aussi dans cet ouvrage que le blanc cherchait à tout savoir. Il n'oublie même pas les vaches, le nombre de vaches que vous avez, le nombre d'enfants, votre bétail, si vous avez un fusil ou non. Il cherchait à tout savoir sur nos chefs, tous ces hommes qui avaient ce droit-là, qui avaient été nommés par le village de régner sur nos villages, sur nos territoires. Donc, le blanc, quand il arrive, il cherche à savoir toutes ces informations pour en faire quoi, d'après vous? Moi, je pense que s'il cherche à toutes ces informations, c'est parce qu'exactement, ils étaient venus pour coloniser. Coloniser quelqu'un, colonisation. Coloniser quelqu'un, ça veut dire dominer la personne, assujettir cette personne. Alors, l'information était très capital pour eux parce que quand tu as l'information, tu peux facilement manipuler quelqu'un comme une télécommande sur avec un écran de télé. Ouais. Plus vous avez l'information sur la personne, plus vous pouvez facilement manipuler la personne. C'est logique, n'est-ce pas? C'est très logique. Alors, c'était ça. le quatrième point, non? Avançons avec le cinquième. Alors, à l'arrivée du blanc, qu'est-ce qui s'est passé? On a enregistré la première épidémie qui fut une épidémie de méningite cérébro-spinale. Elle avait commencé dans les quartiers du nord et avait petit à petit gagné tous les quartiers de la ville. Cette maladie, disaient les vieux, que les soldats noirs l'avaient ramenée du pays des blancs après la guerre. Alors voici comment l'épidémie, la pandémie, en fait, tous ces trucs qui sont en Afrique maintenant est arrivé. Pendant la guerre, les blancs venaient prendre des ressources humaines en Afrique. Ils prenaient des hommes forts, robustes. Ouais. Ils partaient les former comme des soldats. Et puis, quand ils avaient se formé, ils les rajoutaient à leurs armées de guerre. Donc, les Noirs partaient combattre aux côtés des Blancs pour leurs propres intérêts. Alors, quand la guerre s'est achevée, ils sont rentrés. Puis, c'était plus à l'époque de l'esclavage, bien sûr, on leur a donné le libre arbitre de rentrer à la maison. Ils sont rentrés, mais ils ne se sont pas rentrés comme ils sont partis. Ils sont rentrés déjà contaminés par les virus de la méningite cérébro-spinale. Donc, l'épidémie ne vient pas de maintenant, c'est depuis longtemps. Et elle ne vient pas d'Afrique, elle vient d'ailleurs. Suivez mon regard. Alors, c'est quoi le prochain point? On passe au prochain point. Bien sûr. Ce roman, bien sûr, est rencontré à travers une histoire d'amour très touchante entre deux jeunes élèves de l'école moderne, Kani et Samu, qui s'aimaient sincèrement et intensement dans le dessein du père de cette première qui désirait ardemment faire épouser sa fille à un riche marchand famagan, va contrecarrer sérieusement. Le père Benfa, qui était le père de Kani, voulait que sa fille épouse l'homme que lui il aurait choisi pour elle. Et la jeune fille aussi, à son tour, était déjà amoureuse de son ami de classe, avec qui ils ont commencé l'école du blanc ensemble. Alors ça a créé un très grand clash parce que c'était comme un clash de la nouvelle et l'ancienne, en fait, la méthode traditionnelle, la méthode moderne. Le papa, qui est issu de cette tradition, qui est le gardien de cette tradition, savait que dans les traditions, c'est le père qui offre un gendre à sa fille. Maintenant, la fille qui allait à l'école moderne, elle a appris que non, tu as le droit de choisir avec qui tu peux faire ta vie. Alors c'est ça qui créera encore un très grand dilemme entre le papa et sa fille et de l'autre côté son fiancé Sam. Ce n'était pas du tout facile, hein? Parce que faire vivre cet amour voudrait dire désobéir au père de Kani dans un contexte où la jeunesse se comportait déjà de manière assez insolente et désinvolte vis-à-vis de leurs aïeux qui fuyaient leur héritage et leurs coutumes, voulaient à tout prix ressembler aux blancs. Voilà, c'était ça. C'était vraiment un dilemme entre cette fille et son papa qui s'opposait déjà à son mariage avec son étudiant pour lui donner à un marchand, un homme d'affaires qui était déjà aussi polygame de deux femmes. Donc sa fille devait être la troisième femme dans ce foyer-là. L'école moderne, il faut vraiment le souligner, a été tant critiquée par les vieux. Ça a connu beaucoup de failles parce que les vieux se plaignaient beaucoup de cela, que l'école moderne a entraîner une division, une rupture entre la jeune et la vieille génération, et un questionnement dans les vieilles habitudes qui sévissent depuis des siècles. Vous voyez, les jeunes désormais refusaient par exemple de boire de l'eau des calebasses sous prétexte que qu'elles contiennent des microbes, qu'elles sont sales. Donc on peut boire de l'eau de là et tomber malade. Donc ils ne le faisaient plus. Or c'est ce que leurs ancêtres, les pères de leurs pères le faisaient depuis le commencement des choses. C'est un peu ça. Alors il faut noter que il y a un personnage vraiment emblématique dans cet ouvrage, d'un rôle très très capital, car il est à la fois comme un médiateur entre la jeunesse et les vieux. Il s'agit de Tiemann, un jeune homme proche encore des anciens, mais qui a connu l'Europe. Alors il va jouer un rôle notable dans l'intrigue entre le papa de Kani et Kani. Ce mariage forcé qui se préparait, il va jouer vraiment un rôle très très notable de là. Parce que, en parlant de la lettre qui s'adresse au fiancé de Kani, il dit ceci: s'il y a des conflits entre les vieux et nous, jeunes, c'est que nous représentons un peu deux mondes différents. La conciliation est possible. J'aime ça, j'ai vraiment aimé cette phrase. La conciliation est possible. Ouais, c'est vraiment possible. C'est à vous à en prendre l'initiative. Nous avons vécu coupé de l'autre monde. Je m'appuierai d'ailleurs sur le rôle de cet homme pour faire une riche synthèse de cette œuvre en insistant sur le brassage des cultures afro-occidentales. Voilà, il faut reconnaître ceci, ça va de soi, hein. C'est vraiment, on ne peut pas cacher, on ne peut pas se nier cela. Le blanc nous a apporté beaucoup de bien. Beaucoup de bien, ça c'est incontournable. Par exemple, les méthodes artisanales qu'on utilisait jadis ont été remplacées par les méthodes modernes. Ce qui a fait quoi? Ça a accru la productivité, un gain en temps, un gain en, et ça aussi augmenté la productivité, la quantité. À l'époque, par exemple, si on produisait le cas des plantations, on semait peut-être le maïs peut-être sur un hectare par jour, mais avec les machineries et tout ça, le blanc est venu faire, c'était maintenant les cultures sur des hectares, c'est en fait des grandes surfaces, et les productions étaient vraiment énormes, c'était des tonnes qu'on produisait, vous voyez un peu. Donc le blanc nous a apporté beaucoup de bien. Les conditions des femmes aussi ont été révolues. Les femmes sont désormais très émergentes. On connaît pas mal de femmes africaines qui sont multimillionnaires en dollars, en multimilliardaires même peut-être, en dollars américains. On connaît des femmes qui sont dans le gouvernement, premier ministre. Nous connaissons des femmes qui sont haut placées en Afrique. Vous voyez, ce sont les cultures qui ont été un peu mises en question par l'arrivée du blanc. Cette chose n'était pas possible avant que le blanc n'y soit là. Et on voit aussi qu'il y a les foyers polygamiques qui sont un peu en voie de disparition, surtout dans les foyers chrétiens. C'est dans les foyers polygamiques que les gens sont peut-être encore de le faire, mais c'est un peu en voie de disparition, hein, surtout que la société change, ce n'est plus comme les femmes étaient forcées à s'appeler certaines choses. Non, maintenant chaque femme a son droit. La femme peut frapper la main à la table, dire non, je ne veux pas ça, non, je veux ça. Ouais, c'est maintenant le dialogue, la collaboration. Ce n'est plus les droits imposés à qui que ce soit. On doit aussi remarquer que dans la société, il n'y a plus des circoncisions des mâles à l'âge d'adolescence. Ça se fait à la naissance. Ce n'est plus cette époque-là où l'homme devait souffrir, devait se faire circoncire à l'âge de son adolescence pour qu'il soit formé, pour qu'il soit préparé pour affronter la société en tant qu'homme. Donc, il n'y a plus cela. On le fait quand il est tout bébé pour adoucir sa douleur. C'est ça. Point d'autre. Il y a pas mal de valeurs morales et culturelles africaines qui sont vraiment en voie de disparition. Il faut noter les bonnes, mais aussi les mauvaises. Les mauvaises, il y en a aussi. Vraiment nombreuses. Maintenant, c'est un peu dans la nouvelle génération africaine, on trouve rarement les gens qui s'expriment dans un langage de pudeur, qui a encore gardé cet art de s'habiller vraiment comme un Africain avec notre style de genou. Ouais, taille, mais maintenant c'est la plupart des styles communs qu'on voit, c'est sur le modèle occidental. On est bien habillé quand on porte des marques telles que Gucci, Louis Vuitton, Dolce Gabbana et tout ça, je m'en passe. Les jeunes, ensuite, quelque chose de très marrant et de très, 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 très indignant, c'est que les jeunes se détachent de plus en plus de leurs années. Très peu les jeunes sont encore capables, ont encore cette fierté de parler de leurs années. Même dans les places publiques, ils ne parlent presque plus. C'est la langue du colon qui est la plus brandie entre nous, en famille, entre amis, partout à l'école. C'est la langue du colon qui remporte toujours. Et c'est vraiment marrant parce que c'est pas quelque chose, parler son dialecte, c'est pas quelque chose de négatif. Ce n'était pas quelque chose vraiment, ce n'était pas une valeur qu'il fallait, qu'on devrait, on devrait vraiment perdre comme ça. C'est vraiment intriguant. Pourquoi chacun de nous doit se battre pour sauvegarder sa culture? Nous devons être capables de pouvoir dire non à ce qui est mal dans nos cultures et dans la culture de l'Occident. Et nous devons faire comme un tri pour préserver le bon dans tous les cas. Il ne s'agit pas évidemment de tout accepter, mais faisons juste un tri dans les coutumes. Qu'elles soient africaines ou occidentales, elles sont les cultures, ce qu'on doit mettre, ce qu'on doit retenir, c'est qu'elles sont, elles sont faites pour servir les hommes, nullement pour leur asservir. Soyons réalistes, brisons tout ce qui enchaîne l'homme et jeune sa prospérité. Aucune société n'est parfaite déjà, par exemple. C'est ça que les gens doivent comprendre. Aucune société n'est parfaite, ni la société africaine, ni la société occidentale. Prenons le cas de la société occidentale que nous, les Africains, nous combattons tant. Elle est taillée sur celle, sur quelle forme? La forme hiérarchique de la société occidentale, c'est d'abord l'enfant. L'enfant est privilégié. Après, c'est l'épouse. Et enfin, c'est le mari. Le mari vient en dernière position, donc au bas de l'échelle. Ouais, c'est très, très mauvais. C'est très mauvais. Et il y en a, les occidentaux, il y en a parmi qui disent qu'ils sont chrétiens. Mais la Bible ne dit pas cela. La Bible dit d'abord Dieu, ensuite le mari, la femme, et l'enfant vient en dernière position. Ils ont inversé catégoriquement les rôles. C'est pourquoi, vous voyez ce qui se passe maintenant comme conséquence, la délinquance juvénile. Les enfants occidentaux sont tellement insolents envers les propres parents, envers la société, envers tout le monde. Ils sont des gens très insolents. J'en ai vu pas mal. J'en ai vraiment vu. J'ai même vécu cela. Et ce sont les enfants qui savent que si il peut faire n'importe quoi, si son papa lui met la main dessus, il appelle carrément la police. Et ça devient plus grave encore quand il a ses 17 ans. Tu n'as plus rien à lui dire. Il est majeur. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut à sa guise. J'écoutais l'histoire d'une dame encore l'autre jour, ça m'a vraiment intriguée. Elle racontait combien elle a vu son propre fils de 18 ans souffrir d'un problème de santé mentale. Il délirait ce gars. Il était vraiment, donc il perdait vraiment les pédales. Elle a conseillé, elle a fait tous les moyens pour le convaincre de consulter un médecin, de l'accompagner, voir un médecin. Mais le gars a refusé, disait non. Je vais bien, je vais bien. Or, c'était faux. Il prenait des drogues, des lubrifiants, des trucs comme ça. Ça le rendait instable, en fait. Il avait vraiment besoin d'aide. Mais puisqu'il était déjà majeur, c'est lui qui avait le droit d'aller consulter le médecin. Sa maman ne pouvait que le conseiller sans toutefois l'imposer. Ouais, l'enfant que vous avez mis au monde, vous voyez comment il souffre et vous êtes incapable de venir en aide. Oh, c'est le cas inverse en Afrique. En Afrique, il y a le papa, la maman et les enfants. Mais seulement les enfants aujourd'hui et même les mamans, malgré que les choses ont changé, nous aussi, on veut souvent faire comme les blancs. On veut souvent voir, imiter ce qu'on voit à la télé. Dans les séries, on va de nos jours aussi, on veut faire comme les Kim Kardashian, on veut jouer la vie, on veut mener la vie des gens que eux-mêmes déjà ne sont pas satisfaits du système qu'ils ont construit. Leur système a des failles, ils en souffrent. Pourquoi est-ce qu'on va imiter des gens qui eux-mêmes d'abord ne sont pas satisfaits de leur propre système? Donc je vous laisse. C'était la deuxième partie de mon podcast. Je vous laisse vraiment méditer cela. Mon conseil, comme je vous l'ai dit, il y a un moyen de mettre en équilibre entre ces deux cultures africaines et occidentales. Faisons un tri. Gardons des bonnes cultures. Gardons les cultures qui nous valorisent. Les cultures africaines, parmi elles, il y en a plusieurs qui sont très bien. Très, très bien. Il y a une chance pour nous de les préserver et de regarder encore sur la culture occidentale ce qu'il y a bien. Et aussi, on garde cela. On n'est pas obligé de prendre tout, les mauvaises et les bonnes. On fait un tri et on conserve les bonnes valeurs. Ça, c'est pour notre bien, c'est pour le bien d'une nation, c'est pour le bien de l'image de l'Afrique et c'est pour le bien de nous-mêmes là-bas en tant que personnes. Individu. Alors, merci de m'avoir écouté. C'était le troisième épisode de Cyberbomek. J'ai clôturé avec l'œuvre de Sous l'orage de Sidou Batian. J'espère que vous avez aimé. J'attendrai vos feedbacks. Et d'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite une excellente semaine. Soyez tous dans la paix, dans la joie. Et à bientôt pour le quatrième épisode de Cyberbomek Podcast. Bye. Tchuss.